l'esprit de justice qui, ce soir, va revenir sur le cas espagnol, sur le cas de la mémoire en Espagne après le franquisme et depuis toutes ces années, Espagne qui pourrait bien être un laboratoire universel. La guerre d'Espagne fut un événement central de l'histoire du XXe siècle, une guerre civile européenne, comme on a dit, et elle traumatisa durablement tout un peuple pendant une bonne partie de ce siècle, et ça continue comme on le verra. Parce que la guerre s'est prolongée par une répression féroce qui dura au moins jusqu'à la mort de Franco en 1975. Comment notre voisin est-il parvenu à penser ses blessures, si tant est qu'il y soit parvenu? Ce travail fut long et compliqué, d'autant plus long que l'idéologie franquiste a entretenu les thèmes de la guerre et de la victoire tout au long de son existence, quoi, une bonne partie de son existence, d'autant plus compliqué qu'une partie de l'opposition était à l'étranger, et enfin que la liquidation de cette période sombre, soutenue par les nazis, soutenue par les fascistes italiens, interférait avec une autre guerre, autrement plus étendue et importante, la guerre froide. C'est dire l'intérêt de se pencher sur le cas de l'Espagne qui fut au cœur de l'émergence et des évolutions de ce qu'on appelle aujourd'hui la justice transitionnelle, dont on a déjà parlé à Esprit de Justice. Aucun autre exemple dans le monde peut-être ne montre aussi clairement l'intrication des logiques de la guerre, de la politique et de la justice. Sur près de trois quarts de siècle, toutes les modalités possibles et imaginables y ont été explorées, depuis l'amnistie, bien sûr, qui sacrifie la justice devant l'autel de la réconciliation. La désépuration, vous comprendrez de quoi il s'agit, d'une épuration qui revient sur une épuration. Les réparations, les exhumations, la sanctuarisation des lieux, et notamment on pense à la ville de Guernica qui a été convertie de ville martyre en symbole de la paix. Mais aussi ce fut le lieu d'intervention des commissions d'historiens, des tribunaux internationaux d'opinion, jusqu'à la dernière loi, celle de 2007 et surtout celle de 2022 sur la mémoire démocratique. Et cette histoire n'est pas terminée. C'est donc les leçons de ce laboratoire espagnol qu'Esprit de Justice va tenter de tirer. Ce soir, en compagnie de deux invités, Sophie Babi. Sophie Babi est maîtresse de conférences en histoire contemporaine à l'Université de Bourgogne. Et elle vient de publier un livre aux éditions de La Découverte intitulé « Juger Franco ». Point d'interrogation, impunité, réconciliation, mémoire. Et pour en débattre avec elle, Mercedes Yusta Rodrigo, qui est professeur en histoire et civilisation de l'Espagne à l'Université de Paris 8 et qui est spécialiste du franquisme et de l'antifascisme.
France Culture, Esprit de Justice, Antoine Garapon.
Merci d'avoir accepté mon invitation pour parler de l'Espagne, pour parler de la justice ou de la non-justice, on verra ce soir. Mais ma première question, parce que peut-être que les auditeurs n'ont pas ça très fraîchement ou très clairement à la mémoire, Mercedes Yusta Rodrigo, en quelques mots, la guerre civile et la transition démocratique.
Wow, en quelques mots.
quelques mots, histoire de des mots de contexte.
Oui, très rapidement. Cette guerre civile, en fait, c'est le produit d'un coup d'État qui ne visait pas, en fait, à déclencher une guerre civile, mais à renverser un gouvernement démocratique, celui de la Seconde République. Et c'est l'échec, justement, du coup d'État, parce qu'il y a une partie de la population, de l'armée, des forces de l'ordre qui résistent, qui déclenche cette guerre qui va durer 3 ans et qui, comme vous l'avez dit, c'est une guerre qui prend tout de suite une dimension européenne, avec l'intervention de plusieurs puissances qui, en quelque sorte, bon, c'est quelque chose qu'on répète souvent, c'est une sorte de répétition de la guerre mondiale qui va commencer juste après. Et en fait,
ce qui est paradoxal, je vous interromps, ce qui est paradoxal, c'est que c'est la partie qui va gagner la guerre d'Espagne et celle qui va perdre la Deuxième Guerre mondiale.
En effet.
C'est ça un grand paradoxe.
Oui, c'est un grand paradoxe. Et le deuxième paradoxe, c'est que Franco, il va survivre après la Seconde Guerre mondiale. Ça, c'est quelque chose dont on va, je pense, discuter ce soir. Et comment la guerre froide, qui justement vient juste après la guerre mondiale, en quelque sorte, sauve Franco, qui devient un peu le chantre de l'anticommunisme, celui qui avait vu le premier le danger du communisme. Et donc ça l'aide à survivre, en quelque sorte, à continuer en fait au pouvoir sans être aucunement molesté pendant presque 40 ans.
Mais est-ce que la guerre, alors en termes de violence, de ce dont on va parler ce soir, de violence, de crimes, de déportation, de torture, de disparition, est-ce que tous ces actes-là cessent en 1939 ?
Non. En fait, pendant la guerre, c'est une guerre civile. Les guerres civiles, on sait qu'elles sont particulièrement violentes. Et donc, il y a de la violence des deux côtés, même si les historiens sont arrivés vraiment à une estimation des victimes des deux côtés. Et la violence du côté franquiste, elle est supérieure à la violence républicaine. Mais il faut dire qu'il y a quand même de la violence des deux côtés. Mais cette violence-là, effectivement, elle ne va pas s'arrêter le 1er avril 1939, qui est la date officielle de la fin de la guerre. Et elle va continuer pendant l'après-guerre de façon extrêmement violente. Et d'autant plus violente qu'il y a quand même une résistance armée qui persiste, qui pervive en fait après la fin de la guerre, qui va durer jusqu'au début des années 50. Donc c'est quand même longtemps. Et qui... L'existence de cette résistance, elle justifie aussi la violence de la répression. Et ensuite, de toute façon, le régime, il va toujours être fondé sur cette violence.
C'est ça. Le Franco entretient cette idée de purification de l'Espagne, de rédemption du peuple espagnol, de la victoire, de la croisade. Il y a tout un vocabulaire utilisé. Il y a une sollicitation de mythe rédempteur et violent.
Oui, tout à fait. Et donc, cette violence, elle va devenir la légitimation du régime. Et le régime trouve sa légitimation dans le fait d'avoir gagné la guerre, d'avoir, comme ils disent, sauvé l'Espagne de la révolution communiste. Même si, dans les années 60, le discours va changer, en fait. Ils vont abandonner ce discours de la victoire parce qu'il n'est plus vraiment opérationnel, parce qu'il y a de nouvelles générations d'Espagnols qui n'ont pas connu la guerre. Et le discours qui va s'installer à partir de ce moment-là, c'est le discours justement de la paix. C'est-à-dire Franco, le garant de la paix, le garant de la prospérité de l'Espagne, d'autant plus que dans les années 60, effectivement, l'Espagne vit un moment de développement économique très important, comme toute l'Europe d'ailleurs, mais plus impressionnant du fait qu'en Espagne, l'après-guerre avait été une période d'une pauvreté profonde, donc c'est beaucoup plus visible. Et Franco, il va tirer sa légitimité donc de ce développement économique jusqu'à la fin de ses jours.
Sophie Babi, on a l'impression que apparaît dès les années à la fin des années 60 et 70, c'est les bénéfices de la paix. Dans le fond, il y a un consensus de la part de ceux qui ont perdu, des républicains, des exilés, pour dire on ne veut pas continuer la guerre et la paix des armes est un bien suprême.
Oui, alors l'opposition a été considérablement décimée par la répression dont vient de parler Mercedes Yusta. Et elle est en grande partie partie en exil, s'est enfuie en exil, donc en France essentiellement, mais aussi s'est dispersée ensuite en Amérique latine. Donc les partis d'opposition sont à l'étranger, en France. Et en Espagne même, jusqu'aux années 60, l'opposition est réduite à vraiment au silence et à la survie après donc cette intense phase de répression des années 40 et après la fin de la lutte armée donc dans les années 1950. Et effectivement, le parti communiste en 1956 renonce officiellement à la lutte armée, donc c'est pour les 20 ans du début de la guerre civile, renonce officiellement à la lutte armée pour se lancer dans une nouvelle stratégie qui est une stratégie pacifique de lutte contre la dictature. sûr, avec comme objectif un changement de régime par la voie pacifique et non plus par la voie armée et révolutionnaire. Et donc c'est un changement absolument radical de position.
Et par rapport au crime, quelle est la position du Parti communiste espagnol ?
Alors justement, par rapport au crime du passé, il y a une volonté dite de réconciliation et sur qui est fondée
de la gauche,
en fait,
de
la gauche, de la part de l'opposition, qui est fondée sur l'abandon de tout paradigme de vengeance. Voilà, de toute forme de représailles, de vengeance, de rancœur même. On parle beaucoup de rancœur, plus de rancœur, plus aucun besoin de revanche sur le passé. Pour pouvoir avancer, il faut mettre les crimes du passé derrière nous. Selon une idée qui va commencer, qui commence à se développer, qui était déjà présente dès la guerre et l'immédiate après-guerre, mais qui se développe de plus en plus, d'une tragédie fratricide, que la guerre civile a été donc une tragédie entre frères, ou comme l'a rappelé Mercedes, des crimes ont été commis des deux côtés, oblitérant totalement l'ampleur de la répression franquiste.
Et la qualification du régime, du coup d'État.
Et la qualification du régime et du coup d'État. Alors non, le franquisme est toujours considéré comme une dictature, et comme une dictature criminelle, et comme une dictature qui continue à commettre des exactions et des violations des droits de l'homme. Donc on continue à dénoncer en fait les violations du présent, mais on considère que les violations du passé, qui sont réduites en fait à la période de la guerre, doivent être, elles, absoutes.
Alors, Mercedes Yusta, on arrive en 1975, le dictateur meurt, il est enterré en grande pompe à la Vallée de los Caídos, qui est un monument absolument extraordinaire, très très grand. Et que se passe-t-il comment s'opère cette transition, ce qu'on appelle la transition démocratique ?
Bon, c'est vrai que c'est Sophie Babi qui connaît bien cette période de la transition. Oui, j'ai une petite idée. Surtout, j'ai aussi un petit souvenir parce que j'avais 4 ans quand Franco est mort. Mais en fait, ça a été un moment assez particulier. Bon, Sophie Babi en parlera après moi. Déjà, il y avait quand même, dans les dernières années du franquisme, la certitude que le régime était en crise. Et il y avait des mouvements de contestation qui prenaient de plus en plus de l'ampleur. Il y avait aussi des mouvements qui avaient des organisations qui avaient repris la lutte armée. Donc il y avait
La violence repartait sur le terrain.
La violence repartait effectivement, et donc la répression repartait aussi. Donc les dernières années de la dictature ont été vraiment très difficiles et avec des niveaux de violence qu'on n'avait pas connus pendant la décennie des années 60. Et donc le régime, il est mort vraiment en tuant les dernières condamnations à mort.
Jusqu'à la fin.
Elles ont été prononcées 2 mois avant la mort du dictateur. Et donc c'était un moment très dur et un moment aussi d'espoir de la part des organisations de l'opposition qui réussissaient à se réorganiser.
Alors, c'est ça. Alors, l'espoir, justement.
Oui, il y avait de l'espoir et de la peur aussi.
Alors, de l'espoir, Sophie Babi, de l'espoir.
Oui, bien sûr, de l'espoir face à la fin annoncée du régime, puisque le caudillo était malade. Donc, le caudillo, c'est le nom donné à Franco, général Franco, était malade. Il avait déjà plusieurs fois laissé les rênes du pouvoir à son successeur désigné, qui était le futur roi Juan Carlos. Son chef de gouvernement avait été assassiné en décembre 1973, l'amiral Carlos Blanco par l'ETA dans un attentat absolument spectaculaire qui était vraiment un tournant en fait dans la crise du régime, qui est le moment où la crise est révélée à tous, c'est-à-dire la faiblesse du régime et où la bride coercitive se resserre de façon extrêmement intense. En parallèle, il y a la révolution des œillets en avril 1914 dont on commémore le 50e anniversaire, qui donne de l'espoir effectivement aux mobilisations antifranquistes.
Est-ce que les crimes et les violences s'arrêtent en 75, totalement.
Alors bien sûr que non. La mort de Franco ne met déjà pas fin ni aux structures, ni aux institutions, ni aux hommes qui sont à la tête du régime et à la tête des forces armées, à la tête de la police et de la garde civile. Donc il n'y a aucun changement après la mort de Franco, puisque le premier président du gouvernement est le même que celui qui était le dernier sous Franco, c'est Carlos Arias Navarro. Il n'est pas changé avant juillet 1976, 1913, donc six mois après la mort, un peu plus de six mois après la mort de Franco. Et c'est notamment une intense mobilisation des populations qui aboutit à ce changement de gouvernement et au lancement de la réforme. Donc non, il y a d'intenses manifestations et une répression très, très vive et très meurtrière qui s'abat sur les manifestants, sur les activistes et le bilan. En fait, il y a un cycle de violence qui s'enclenche à la fin de la dictature pour perdurer jusqu'à
la fin. Mais alors, qu'est-ce qu'on dit ? Qu'est-ce que disent la classe politique, les exilés qui rentrent ? Comment ils abordent les violences du passé ?
Alors, les exilés qui rentrent. Déjà, les exilés ne rentrent pas en masse, en fait, en 1975. Il faut bien se rendre compte que la fin de la guerre, c'est 1939. Donc, il s'est écoulé 40 ans. Donc, les exilés, ben, ils ont construit leur vie à l'étranger, en France, en Amérique. Donc, il y en a un certain nombre qui rentrent, mais on n'assiste pas à un retour massif des exilés. Alors, la position quant aux crimes du passé, elle est en fait un petit peu, effectivement, distincte. Mais elle a toute velléité de justice par rapport aux crimes du passé a disparu des programmes de l'opposition antifranquiste depuis longtemps.
C'est ça, de l'opposition, j'insiste
là-dessus, bien sûr. De l'opposition de gauche, du Parti communiste, mais aussi du Parti socialiste.
Ils n'en parlent plus.
Il y a quelques groupuscules radicaux d'extrême gauche qui continuent à réclamer justice pour les crimes du franquisme. Mais en fait, il s'agit surtout des crimes du présent, plus que de ceux de la guerre civile ou de ce qu'on appelle la grande répression des années 40. Donc la justice, à ce moment-là, c'est obtenir les libertés démocratiques, l'émancipation, permettre le retour des exilés, faire sortir les prisonniers politiques de prison. C'est ça la justice du moment. Et ensuite, il y a des associations donc de victimes du franquisme qui se sont constituées à la toute fin du régime, qui elles commencent à exiger des réparations, une forme de réparation qui n'est pas du tout sous une indemnisation, une compensation pour les souffrances subies, pour les injustices subies, mais juste à ce moment-là, on réclame une égalisation des droits. C'est-à-dire que tous les vaincus de la guerre, les anciens combattants, les veuves, les mutilés, les orphelins du camp républicain n'ont obtenu aucune pension, aucune protection sociale, rien pendant les 40 ans du franquisme. Ils ont été même persécutés, etc. Et ce n'est que à partir de la mort de Franco qu'ils osent réclamer uniquement l'égalisation des droits avec le camp adverse.
Mercedes Justa.
Oui. Il faut se situer dans l'ambiance de l'époque. Et au moment où est en train de disparaître une dictature qui a duré 40 ans et qui, finalement, a socialisé plusieurs générations d'Espagnols. Et je parlais tout à l'heure de la peur. C'est quelque chose qui est très important aussi pour comprendre la prudence aussi des organisations antifranquistes.
Et puis, qui laisse un État qui marche, quand même, même s'il y a
bien
des
sûr.
Crises politiques, c'est un État qui marche.
Il y a une justice l'État, en place. Il marche très bien.
Très bien, voilà.
Toutes les institutions sont en marche. Enfin, c'est vraiment le rapport de force est très, très inégal. Il y a l'armée aussi. Il y a, pendant tout le processus de transition, la menace de l'armée, qui est l'armée formée par Franco, l'armée qui a gagné la guerre civile et qui est dévouée à son caudillo, qui menace avec un coup d'État.
Il y a qui va se produire, d'ailleurs,
qui va se produire en 81 et qui est déjouée par Juan Carlos. Et donc, voilà, tous ces éléments sont là et font que c'est extrêmement difficile de penser que à ce moment-là on puisse demander de juger qui que ce soit. Et par contre, c'est la demande, enfin Sophie Babi l'a très bien dit, la demande qui est vraiment majoritaire et dans l'opposition, c'est la demande de l'amnistie pour faire sortir c'est les ça. Prisonniers politiques de prison.
Très important. Il y a une convergence, en fait, sur l'amnistie. Vous dites, d'ailleurs, dans votre livre, Sophie Babi, c'est un mot totem, l'amnistie.
Oui, alors j'essaie dans ce livre de tracer un peu la généalogie de cette idée d'amnistie, de cette catégorie qui apparaît très très tôt dans les discours, dès la guerre civile elle-même en fait, dès la fin de la guerre civile, dans la bouche des républicains face à une défaite annoncée, qui est présente dans ce discours, ce manifeste pour la réconciliation nationale du Parti communiste en 1956, et qui à la fin des années 50 et dans tout le courant des années 60 et 70, va s'imposer comme un mot d'ordre des oppositions antifranquistes. Donc l'idée d'amnistie vient de l'opposition, parce que l'amnistie à ce moment-là, elle concerne les prisonniers politiques. L'objectif est de faire sortir les prisonniers politiques
pas de prison. Pas celles des coupables des exactions.
Exactement. Donc il faut en fait tout le travail un peu des années 60 et 70, c'est d'attirer à cette idée d'amnistie des dissidents du régime de Franco, c'est-à-dire des gens de l'intérieur, des intellectuels notamment comme Ramon Menéndez Pidal, qui est un grand intellectuel de l'Académie royale et qui part pour des raisons humanitaires et aussi de charité chrétienne.
C'est ça.
Rejoignent cette idée d'amnistie.
C'est-à-dire qu'en fait, l'amnistie s'adosse sur cette idée de pacification, mais aussi de charité, de compassion.
Exactement. Et c'est la compassion qui l'emporte dans les années 60 pour convaincre une partie, en fait, des gens qui commencent à s'éloigner en Espagne un petit peu du régime et à en être mécontents et à envisager autre chose que de considérer qu'au bout de 20 ans après la fin de la guerre civile, il y a encore des personnes incarcérées.
À tel point qu'on parle, c'est l'expression de votre livre, de pacte de silence.
Alors ça, c'est plus tard. C'est pendant la transition, après la mort de Franco. Où, en fait, cette amnistie qui a fini par donner lieu à une loi, qui est la loi d'amnistie de 1977, est une amnistie qui est caractérisée par sa réciprocité. C'est-à-dire que c'est une amnistie générale. À la fois des crimes politiques, des opposants et des agents du régime.
La vicisette em parlava de bon matí al portal mentre el sol esperàvem i els carros veiem passar. Siset, que no veus l'estaca a on estem tots lligats? Si no podem desfensen, mai no podrem caminar. Si estirem tots, ella caurà i molt de temps no pot durar. Segur que tomba, 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 ben corcada, deu ser ja. Si jo l'estiro fort per aquí i tu l'estires fort per allà, segur que tomba, tomba, tomba i ens podrem alliberar. Però Siset, fa molt temps ja, les mans se'm van escorxant i quan la força se me'n va, ell és més ample i més gran. Ben cert sé que està podrida, però és que Siset pesa tant que cops la força m'oblida. Torna'm a dir el teu cant si estirem tots.
France Culture, Esprit de Justice, Antoine Garapon.
Esprit de Justice qui réfléchit ce soir sur la mémoire douloureuse de la guerre d'Espagne chez nos voisins, en compagnie de Mercedes Justa Rodrigo, qui est professeur spécialiste du franquisme et de l'antifascisme, et Sophie Babi, qui vient de publier un livre intitulé « Juger Franco ». Sophie Babi, qui a choisi de nous faire entendre cet air « L'Estaca » par Lluís Llach. Un mot de présentation, Sophie Babi, cette chanson?
Oui, c'est une chanson qui est devenue un hymne à la liberté en Espagne et ailleurs, parce que c'est une chanson très très connue, chantée en catalan, donc par un chanteur catalan, Lluís Llach, en 1968, et qui est en fait une métaphore, parce que ça s'intitule Le Pieux, c'est une métaphore de l'émancipation, puisqu'il s'agit donc de s'arracher de cette bride qui nous attache au pieux pour conquérir la liberté. On est en 1968, les mouvements de contestation, bien sûr, mondiaux et studieux touche aussi l'Espagne, la contestation augmente à ce moment-là et c'est vraiment une ode à la liberté en Catalogne. Et Lluís Llach partira ensuite en exil en France et faire une petite carrière musicale en France avant de revenir ensuite en Espagne.
Alors, il y a cette période de l'amnistie, vous avez une expression Mercedes Justa que j'ai trouvé très suggestive, vous parlez des péchés originel de l'Immaculée Transition. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?
Oui, en fait, l'expression n'est pas tout à fait mienne.
Oui. Je crois elle est très bonne, en tout cas.
Oui, on parle beaucoup en Espagne. En fait, et dans les années 2000, il va avoir un mouvement à la fois de revendication, justement, de cette mémoire des vaincus et des victimes de la guerre civile et du franquisme, et qui est un mouvement qui arrive tardivement par rapport à la chronologie
après,
de la transition,
voilà, 25 ans siècle, après. Oui, c'est ça.
Donc ça veut dire que pendant 25 ans, en fait, la société espagnole n'a pas trouvé de façon majoritaire le besoin de se pencher sur ce passé. Et ce mouvement, donc, qu'on appelle de la récupération de la mémoire historique, qui est un nom un peu alambiqué, qui veut dire en fait qu'effectivement, après toutes ces années un peu d'oubli et de silence, on récupère cette mémoire et on la met à nouveau dans l'espace public, ça va aller de pair avec une critique, justement, de la façon dont on a fait la transition. Et dans cette critique, c'est là qu'on va parler, c'est les mouvements sociaux autour de la mémoire qui inventent cette expression qui en fait, effectivement, elle est drôle, de la Inmaculada Transición, donc, par analogie avec la Inmaculada Concepción.
Et
donc, c'est une façon de dire qu'en fait, dans la période de la transition, on est encore dans l'héritage du franquisme.
Alors, c'est ça.
Donc, ça n'est pas complètement défait et que c'est le fait que beaucoup d'éléments de la dictature ont fait ce transit vers la démocratie sans véritablement changer et qui fait qu'on n'a pas pu parler de cette mémoire vaincue.
Elle fait ce travail ou ce refoulement, je ne sais pas comment dire, Sophie Babi, mais ce qui est certain, c'est que pendant cette période, l'Espagne veut se présenter à la pointe de la... Quoi, à la pointe, veut participer au concert des nations démocratiques et on est à un moment où comment commence le thème de la mémoire. On est après 89, il y a eu toutes les transitions dans les pays de l'Est. Donc, il y a une ambiance globale sur laquelle vous insistez beaucoup et qui va beaucoup expliquer, qui va, en quelque sorte, faire des allers-retours avec l'Espagne.
Oui, parce que un des récits un peu classique de la transition et de l'après, c'est de considérer que en gros, il s'est rien passé au niveau mémoriel pendant les années 80-90, enfin 70-80-90, et puis que soudain en 2000 émerge ce mouvement de récupération de la mémoire historique. Et donc moi ce qui m'a intéressé, c'est de d'expliquer ce tournant de l'an 2000 et de revenir en arrière pour comprendre les racines, essayer de chercher de trouver en fait toutes les initiatives que vous évoquiez dans l'introduction de cette émission, hein, toutes les initiatives de justice
sont
et de
très
mémoire
nombreuses.
Qui avaient existé,
oui.
Qui ont pour la plupart échoué, ont été esquissées puis abandonnées, ou qui juste ne font pas partie du récit national mais ont bien existé et qui ont formé, constitué en fait un terreau sur lequel se sont appuyés ensuite les citoyens, les associations qui ont effectué ce réveil en quelque sorte mémoriel qui ne sort pas de nulle part et qui s'inscrit dans un contexte international particulier.
Mais alors, il ne se passait pas rien non plus sur le terrain, c'est le cas de le dire, sur le terrain et dans la terre, on pourrait même dire Mercedes Yusta, parce qu'il y a eu les premières exhumations. Les familles ont recherché les corps des fusillés, des disparus, parce que la mémoire avait gardé l'endroit où ils se trouvaient.
Oui, tout à fait. Et en fait, pendant cette période de grande répression de la guerre civile et les premières années de la dictature, il y a eu beaucoup d'exécutions extrajudiciaires, même pendant une partie de l'après-guerre.
C'est ça. 134 000, hein, le dernier chiffre que j'ai lu.
Ah oui, alors j'en étais restée à 114 000, qui était le chiffre énoncé par le juge Baltasar Garzón dans les années 2000. Mais c'est une estimation, en fait, du nombre de disparus
alors,
dans les fosses, de ceux qui sont toujours enterrés dans les fosses en Espagne.
C'est quand même énorme, ça veut dire qu'il y a, des charniers partout en Espagne.
Oui, l'Espagne est une grande fosse commune, comme le dit Emilio Silva, l'un des acteurs du mouvement. C'est-à-dire qu'il y a des fosses, effectivement, éparpillées. Alors, à la fois dans la nature, c'est-à-dire dans les environs des villages, hein, selon cette pratique que décrivait Mercedes Yusta, on sortait, en fait, dans la montagne pour aller commettre ces exécutions extrajudiciaires et enterrer sur place les victimes. Et puis, il y a des grandes fosses aussi dans les cimetières, en fait, et c'est ces grandes fosses qu'on exhume aujourd'hui de plusieurs milliers de corps.
C'est ça. Mais alors, les familles, et notamment les femmes, Mercedes Yusta.
Oui, en fait, les familles et les femmes savaient. Et en général, enfin, il y avait des fosses plus ou moins inconnues, mais les gens avaient gardé la mémoire de ces endroits. Il y avait des témoins. Et les gens savaient que leurs proches étaient enterrés dans ces fosses. Mais pendant toutes les années de la dictature, il y avait une omerta sur ces exécutions. On ne pouvait même pas en parler. Et au moment de la transition à la démocratie, il y a des familles qui, effectivement, vont tenter, dans ces premiers moments de la démocratie, de récupérer ces corps, ces restes, et de leur donner un enterrement digne. Sauf que ces premières tentatives se sont faites de façon vraiment presque clandestine, avec beaucoup de peur, parce que toute cette période, effectivement, elle a été marquée par la peur d'une involution, et c'est une peur qui était aussi très présente au niveau local. C'est-à-dire que dans les petits villages, par exemple, où tout le monde se connaît...
Et on savait qui était qui.
Voilà. Et donc, bon, j'ai recueilli des témoignages, par exemple, des gens qui me disaient, en fait, moi, je voyais passer tous les jours devant ma fenêtre l'assassin de mon père ou de mon grand-père. Donc, les gens savaient qui était qui avait fait qui, surtout, qui avait fait quoi, pardon. Et donc, cette histoire de fosse était très compliquée parce que, justement, c'était la preuve que ces assassinats avaient été commis. Et donc, il y a eu quelques exhumations qui ont pu se faire, mais ça s'est fait avec beaucoup de difficultés.
Sophie Baby.
Oui, ce qui est très intéressant, c'est que ce phénomène a été totalement ignoré jusque très récemment.
Il est reparti récemment.
Alors, le mouvement d'exhumation est reparti récemment, mais on a coutume de dire que la première exhumation avait eu lieu en l'an 2000. Ignorant totalement la réalité de ce phénomène des années 70, donc qui était méconnu et qui a été en fait remis au jour précisément par le mouvement d'exhumation des années 2000, où parfois les archéologues découvraient des fosses qui en fait avaient déjà été vidées ou déplacées, et les langues ont commencé à se délier, et il y a quelques historiennes qui ont fait des enquêtes pour les mettre au jour.
Vous parlez dans votre livre d'une expression que je ne connaissais pas d'ailleurs, la « forensic turn ». Le tournant médico-légal.
Oui. Alors, oui, c'est le tournant médico-légal. C'est en fait, ça désigne ce moment où la science médico-légale s'invite dans l'expertise des violations des droits de l'homme à partir des fosses communes exhumées pour, dans le cas de la guerre en Yougoslavie, essentiellement en 1995.
Donc, on a accumulé un savoir.
Avec le cas argentin. Donc, il y a un savoir qui se développe, qui apparaît, et qui est utilisé, que s'approprient en fait les acteurs de ce mouvement en Espagne de façon tardive dans les années 2000.
Mais ça change tout. Mais en fait, ce mouvement des exhumations, alors la deuxième vague, va créer une émotion et va créer, alors pour le coup, va mobiliser l'opinion espagnole, Mercedes Yusta.
Oui, tout à fait. Et en fait, si on parle de l'année 2000 comme l'année zéro de la mémoire historique, c'est justement à cause de ces témoins de la société espagnole. En fait, les deux fondateurs de l'Association para la Recuperación de la Memoria Histórica, qui est l'association qui se crée justement l'année 2000 et autour des exhumations, justement pour mener ces exhumations. Et les deux fondateurs sont des journalistes, en fait, Emilio Silva et Santiago Macías. Et donc, en fait, ils vont mobiliser tout un appareil médiatique et pour la première fois, en fait, il va avoir une diffusion massive dans la presse, dans les médias, etc., des photos de ces charniers, des images. Et en fait, ça arrive à
toujours
un moment...
les images, c'est un élément essentiel, bien sûr, pour découvrir.
Donc, c'est ces images-là qui vont jouer un rôle très important, en fait. Parce que, effectivement, que les gens savaient qu'il y avait eu la répression, etc. Mais à ce moment-là, les gens ont vu. Et je pense que ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et ça a changé, en fait, la perception que la société espagnole avait de cette période de la guerre et de la répression, oui, qui semblait très lointain. En fait, ce qui est. Enfin, il y a quelque chose d'assez drôle. Et en 2001, en fait, le romancier Javier Cercas, il publie un livre qui fait en quelque sorte partie aussi de tout ce mouvement mémoriel qui commence à peu près... En fait, il commence avant, il commence au milieu des années 90. Mais bon, c'est dans les années 2000 que ça explose. Et donc, il publie ce roman très connu qui s'appelle « Les soldats de Salamine ». Et justement, ce roman, il s'appelle comme ça parce que Javier Cercas, il dit, enfin, c'est une quête, en fait, ce roman, autour d'un personnage de la guerre civile, etc. Et Javier Cercas, à un moment, il dit, en fait, pour moi, les soldats qui s'étaient battus pendant la guerre civile, c'était comme les soldats de la bataille de Salamine. Et effectivement, à ce moment-là, c'était la perception qu'avait la société espagnole. C'est-à-dire d'un conflit très lointain, du passé. Et les charniers, en fait, ils mettent ça oppressant.
Un effet de réalité.
Oui, c'est tout à fait ça.
Sophie Bavy.
Oui, oui, tout à fait. C'est exactement ça. Je parle de choc des fosses et c'est un choc qui est visuel et qui, c'est une expression que j'utilise aussi, rend sensible au présent le passé. C'est-à-dire que tout d'un coup, le passé, on découvre que le passé n'était pas mort, n'avait pas disparu, n'était pas oublié, mais au contraire que le passé était là, vivant, sous nos pieds.
C'est ça, vivant, façon de parler. Mais il va se passer une sorte d'ultime bataille des dépouilles. Ça, je trouve ça très intéressant dans l'histoire espagnole. C'est que, du coup, dans des années, alors 2017, je parle sous votre contrôle, on va commencer à déménager les restes des chefs du régime franquiste.
Oui, alors ça commence à se faire de façon assez discrète à Pamplune, notamment en Navarre, pour enlever le corps du général Mola qui était enterré, sans trop de bruit.
Qui était l'instigateur, Mola.
Oui, un des instigateurs du coup d'État de 1936. Donc les généraux sont enterrés dans des grandes basiliques à Séville, à Pamplune. Et bien sûr, donc le corps de Franco à Valle de los Caídos, dont on a déjà parlé. Et il y a ce moment absolument majeur et ce tournant quand en 2019, le gouvernement de Pedro Sánchez, le gouvernement socialiste, décide d'exhumer le corps de Franco, de sortir son cercueil de la basilique de Valle de los Caídos pour le remiser dans le caveau familial. Et là, c'est un moment symbolique très très important, de tournant hein, dans la politique mémorielle voulue par le gouvernement socialiste, et qui est suivi ensuite donc de l'exhumation de José Antonio Franco de Rivera, qui était à côté de Franco, et qui est le fondateur de la Falange, donc le parti fasciste, mais qui lui avait assassiné dès 36, donc était considéré comme un martyr de la guerre, au contraire de Franco. Donc c'est symboliquement mettre fin en fait à la présence choquante hein, d'un dictateur qui trônait devant l'autel d'une grande basilique en toute impunité.
Mais alors, Mercedes Yusta, j'imagine que tout ça, on parle du point de vue qui est le nôtre, du point de vue de la justice, du point de vue des victimes, Dieu sait si elles sont importantes dans la mémoire espagnole, mais j'imagine que ça va pas tout seul, qu'il y a quand même une résistance des franquistes ou du Parti Populaire ou de la droite conservatrice qui a gouverné aussi pendant ces années-là.
Oui, 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 tout à fait. Et d'ailleurs, en l'année 2000, c'est-à-dire l'année où toute cette affaire des fosses et de la mémoire, etc., explose médiatiquement, c'est le Parti Populaire qui est au pouvoir et ça lui plaît pas vraiment.
Oui.
Et surtout que dans le Parti Populaire, il y a quand même certains membres qui viennent de la dictature franquiste, notamment le fondateur Manuel Fraga, qui, bon, à cette époque-là, était déjà décédé, mais quand même il y a un héritage, même si après il est devenu évidemment un parti démocratique. Et ce qu'on constate à ce moment-là, c'est que en même temps que se développe ce discours de revendication de la mémoire des vaincus, se développe aussi de façon très puissante un discours révisionniste qui va essayer de réhabiliter la dictature et surtout de légitimer le coup d'État du 18 juillet 36. Et il y a une série d'auteurs, de pseudo historien dont le plus connu est un certain Pio Moa, dont le livre a été
un grand succès
il y a peu en France. Et effectivement, il a un grand succès, notamment avec un livre qui s'appelle Les mythes de la guerre civile en 2003, est le livre qui vient d'être traduit.
Malheureusement, heureusement, pour parce que ça a été un grand succès en Espagne, mais Sophie Bavy, il y a aussi une autre chose qui m'a beaucoup choqué et qui, je crois, dont le public français n'a peut-être pas conscience, c'est l'affaire des bébés volés. Comme en Argentine d'ailleurs.
Oui, alors l'affaire des bébés volés, enfin le terme même de bébé volé est directement calqué sur les enfants volés argentins. Et c'est d'ailleurs très significatif, en fait, de l'influence très forte du modèle argentin, de la façon dont l'Argentin a traité son propre passé de junte militaire, donc entre 76 et 1983, par les associations espagnoles. Une influence très très forte, enfin sur les associations espagnoles, voilà, qui se sont appropriées tout un tas de catégories juridique et de symboles, dont celui des bébés volés. Et c'est un cas qui sont sortis, qui sont apparus très très tardivement dans ce mouvement d'association.
Après les années 2000.
Oui, oui, et plus tard même.
Oui. Et en quoi ça consistait?
Secondairement, enfin dans la deuxième moitié de la décennie 2000. Alors là, il y a un peu des confusions historiques qui se font souvent. En fait, il y a d'une part le cas de ces enfants qui étaient confiés, en tout cas recueillis ou de force par contrainte par des centres en fait le patronato, ce qu'on appelle le patronato à ce moment-là espagnol, qui s'occupait des orphelins et qui en fait récupéraient des enfants, soit de femmes qui étaient en prison, qui avaient accouché en prison, ou alors de femmes qui avaient été exécutées, qui étaient décédées, ou alors de filles mères en fait, de jeunes filles isolées et dans une société extrêmement patriarcale, nationale, catholique. La déviance, enfin être une fille mère était considérée comme une déviance intolérable et les enfants étaient en fait...
Mais est-ce qu'il y avait une dimension de répression? Est-ce qu'il y avait des enfants qui étaient soustraits, par exemple, à des familles comme en Argentine, où il y avait des disparus ou des gens de gauche à qui on prenait les enfants pour purifier la population d'un point de vue démographique.
Alors ça a été le cas, Mercedes, je pense, pourra mieux en parler, dans les années 40.
Ah oui,
voilà.
C'est ça.
Mais après, oui, voilà, c'est au moment de la grande répression des années 40 où il y a une dimension politique de purger, en fait, ce qu'on appelait, ce qu'un certain docteur, prétendu docteur, qualifiait le gène rouge, et donc de purger, de purifier la race espagnole et donc d'éduquer de façon morale et autrement les enfants de rouge. Mais c'est plus le cas après.
Voilà. Un mot, Mercedes.
Oui, c'est tout à fait ça. Donc, dans les années 40, on va surtout soustraire les enfants des femmes qui accouchent en prison. Et en général, il y a quand même des traces du fait qu'on aurait pu les donner en adoption de façon illégale à cette époque-là. Mais la plupart de ces enfants, effectivement, comme le disait Sophie, ont fini dans des institutions de ce qu'on appelle l'auxilio social, qui était la grande institution qui s'occupait de
L'Église catholique participait à cette chose-là ou pas ?
Dans la mesure où beaucoup de prisons étaient gérées par des bonnes sœurs, oui.
Si te dijera, amor mío, que temo a la madrugada, no sé qué estrellas son estas que hieren como amenazas, ni sé qué sangra la luna al filo de su guadaña. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandones, amor mío, al alba. Al alba, al alba, al alba, al alba.
France Culture, Esprit de Justice, Antoine Garapon.
Esprit de Justice qui continue de réfléchir sur la mémoire espagnole en compagnie de deux historiennes, de Sophie Babi et de Mercedes Yusta Rodrigo. Et Mercedes Yusta qui a choisi de nous faire entendre cette air à l'alba qui était interprétée par Luis Eduardo Aute.
Oui, en fait, c'est une chanson que j'aime beaucoup, qui me fait toujours remonter les larmes aux yeux. En fait, c'est une chanson qu'il a écrite en mémoire des derniers fusillés du franquisme, qui donc sont 100 militants de l'ETA et du FRAP, et qui ont été exécutés à la toute fin de la dictature. Et donc, il a écrit cette chanson qui s'appelle « À l'aube » et qui essaye de reproduire ce qu'ils auraient pensé, en fait, ou vouloir dire lors de cette dernière nuit.
Nuit, oui. Grand thème, on pense aussi à Manoukian ou aux gens du Mont Valérien chez nous. En France, Sophie Babi, il y a quand même une loi très récente. Hein. Il se passe des choses très récemment d'ailleurs, hein. C'est pour ça dont on va parler maintenant. Il y a la loi 2022 qui est une loi assez courageuse, qui elle a franchi le pas alors, concernant les crimes du passé.
Oui, en fait, il y a eu deux lois mémorielles, toutes deux adoptées par des gouvernements socialistes, hein, la première en 2007 et la seconde en 2022, donc tout récemment, qui avait pour objectif de pallier les insuffisances de la première, qui n'était qu'un premier pas, qui m'avait suscité l'incompréhension et surtout des regrets de la part de beaucoup d'associations qui n'avaient pas vu leurs revendications être entendues. Donc c'était un souhait vraiment d'inclure un maximum d'associations de victimes pour répondre à leurs demandes. Mais ce qui me semble surtout très important dans cette loi qui s'intitule dans la loi sur la mémoire démocratique, on ne parle plus de mémoire
ou de récupération, c'est ça,
mais de mémoire démocratique, c'est un retournement, un renversement du récit en fait, et un renversement de la légitimité. C'est-à-dire qu'il y a, il me semble, dans cette loi vraiment l'affirmation d'une légitimité démocratique et que cette légitimité démocratique est incompatible avec la légitimité
c'est ça.
Franquiste.
Donc d'une illégitimité franquiste.
Exactement, et d'une illégitimité radicale du franquisme, et donc une condamnation sans détour du franquisme, et qu'on ne peut en fait être démocratique et défendre les valeurs démocratiques sans condamner le franquisme.
Alors il y a eu un juge qui a eu une importance très grande, Mercedes Yusta, c'est le juge Garçon, qui est une figure, hein. Vous pouvez nous dire un mot peut-être sur le... Et dont le feuilleton médiatique a paradoxalement renforcé sa cause, même si à la fin il n'a pas pu faire ce qu'il voulait.
Oui, en fait, c'est le juge Garzón, et une fois de plus, Sophie connaît très très bien ce dossier, et c'est une figure très importante, très intéressante, et qui justement s'est fait porteur de cette notion de justice universelle, et qui permettrait de juger les crimes contre l'humanité depuis n'importe quelle juridiction.
Imprescriptible.
Voilà. Et donc, c'est lui qui a demandé l'extradition de Pinochet à la fin des années 90.
C'est paradoxal, il a demandé l'extradition de Pinochet avant de demander de faire mémoire de son propre pays.
Oui, mais justement, c'est ça qui est très très intéressant, c'est de voir à quel point, en fait, certains secteurs en Espagne se sont très fortement impliqués dans la dénonciation des dictatures argentines, des dictatures chiliennes, et ont entrepris à la fin des années 90 procès des dictatures chiliennes et argentines.
Il y a été un coup de tonnerre dans le milieu, d'ailleurs.
Un coup de tonnerre dans le milieu juridique, ça, vous en parlez mieux que quiconque.
Tout à fait, tout à fait. Tout à fait. Non, mais ça a été... Mais parce que les lords anglais se sont décidés, parce que...
Bien sûr.
Il y a eu véritablement un changement. Il y a un avant et un après l'affaire
Pinochet.
Tout à fait,
parce que c'est la première fois que le principe de la compétence universelle est utilisé pour juger des violations des droits de l'homme d'un ancien chef d'État. Et de plusieurs anciens chefs d'État. Et qu'effectivement, finalement, l'Angleterre avait... approuvé l'extradition de Pinochet et que par décision politique, sous prétexte de la mauvaise santé du dictateur, il a fini par rentrer chez lui sereinement au Chili.
C'est ça. Mais le paradoxe, c'est que l'Espagne en faisait plus contre Pinochet et pour la mémoire universelle des droits de l'homme qu'elle ne le faisait sur sa propre histoire.
Le paradoxe a surgi à ce moment-là. Et de plus en plus de personnes se sont dit, mais comment est-ce possible qu'on ait pu juger Pinochet, qu'on soit incapable de juger les crimes de Franquise, qu'on soit capable de juger Franco. Et donc c'est un des facteurs acteurs aussi, qui a abouti à définir ce qu'on a appelé le modèle d'impunité espagnole. Donc l'Espagne a été un temps modèle de réconciliation, elle est devenue modèle d'impunité parce que la démocratie est accusée de ne pas avoir su écouter et entendre les victimes du franquisme. Et c'est ce qui se produit ensuite dans les années 2000.
Et qui continue toujours aujourd'hui, ce véritable travail de mémoire, Mercedes Yusta, un véritable travail de mémoire de la société espagnole sur son passé.
Oui, mais c'est à la fois, ça a des effets aussi un peu paradoxal.
Oui, c'est ça. Et comme toujours, ça crée aussi des contre-feux.
Et en fait, je lisais il y a peu la sociologue Sandrine Lefranc, qui a beaucoup travaillé sur la question de la justice transitionnelle, et elle disait quelque chose qui m'a un peu déboussolée. Elle disait que en fait, les politiques de mémoire souvent avaient ce côté paradoxal et qu'elles pouvaient avoir des effets contre-productifs. Et c'est un petit peu ce qu'on voit aujourd'hui en Espagne, c'est-à-dire qu'effectivement il y a eu cette loi de mémoire démocratique de 2022 qui est une loi très courageuse qui justement pose la question de façon historique et dont l'effet le plus important c'est celui de manifester par la loi l'illégitimité de la dictature de Franco. Mais en fait, l'effet que ça a en ce moment, c'est que dans plusieurs régions, en fait, qui sont gouvernées par la droite,
avec un parti d'extrême droite.
Avec un parti d'extrême droite qui s'appelle Vox. Et en fait, ils ont dérogé l'équivalent régional de ces lois de mémoire. Et ils l'ont remplacé par des lois qui s'appellent Ley de Concordia, des lois de la Concorde, qui en fait revient à désactiver complètement les politiques de mémoire qui avaient été menées jusqu'à ce moment-là, et en particulier les exhumations. Et donc, c'est quelque chose de
pour y mettre un terme.
Pour y mettre un terme, effectivement.
Mais Sophie Bobby, on est revenu 30 ans en arrière, c'est-à-dire qu'on est revenu sur la Concordia, la Concorde, c'est comme le discours de l'amnistie, c'est-à-dire la guerre fratricide, oublions tout cela.
Précisément, le terme est choisi à dessein parce qu'il fait écho à un imaginaire espagnol très ancré et qui est celui de la défense de la transition. Alors, les lois mémorielles de gauche s'inscrivent, elles aussi, dans l'héritage de la transition. Elles ne s'opposent pas du tout à la réconciliation. Au contraire, elles en font l'éloge, mais elles partent du postulat que pour qu'il y ait une réconciliation authentique, il faut qu'il y ait une forme... Un droit à la vérité, un droit à la mémoire. Voilà, donc ce sont toutes les piliers de la justice transitionnelle. Vérité, justice, réparation... qui émergent dans ces textes-là et qui suscitent effectivement une réaction très vive de la part, mais en fait essentiellement de l'extrême droite. La droite est ici poussée, en l'occurrence, à son flanc droit.
Il n'y a pas qu'en Espagne, oui.
Exactement, il n'y a pas qu'en Espagne. C'est un mouvement absolument mondial et en tout cas européen, occidental, et qui a pour conséquence de placer de nouveau la question de la mémoire du passé au cœur des débats politiques et la question de l'amnistie. Au cœur des débats politiques et donc tout de même c'est un enjeu d'actualité absolument majeur aujourd'hui puisque le gouvernement socialiste décide même d'en faire un des points de sa campagne électorale pour les européennes décide de porter en fait ce cas au tribunal constitutionnel et puis auprès de l'Europe pour voir si ces lois qui régionales sont constitutionnelles, c'est-à-dire si elles sont en accord avec la loi nationale qui a été adoptée. Donc il y a une offensive en fait des deux côtés et qui replace cette question de la mémoire des crimes du passé au cœur du débat politique, alors que c'était moins le cas, on va dire, dans les décennies précédentes.
Il y a une expression qui revient dans votre livre, Sophie Babi, que vous employez également d'ailleurs, Mercedes Yusta, qui est toujours un peu énigmatique pour moi, c'est les deux Espagnes. Les deux Espagnes, c'est-à-dire l'opposition profonde du pays. C'est quoi les deux Espagnes? Je ne sais pas laquelle veut répondre.
En fait, c'est une expression très ancienne
qui
date de la
guerre
civile elle-même, donc c'est pas nous qui l'avons inventée.
Mais comme s'il y avait plus profondément, sociologiquement, deux Espagnes qui s'étaient affrontées déjà depuis le début du XXe siècle.
Oui, il y a cette idée-là qui est très profondément ancrée et effectivement dans l'image que l'Espagne a d'elle-même. Après, il y a aussi l'idée d'une troisième Espagne. qui justement serait, je pense à ceux qui justement pendant la guerre civile elle-même ont dénoncé par exemple la violence des deux camps.
Oui, oui.
Et donc il y a eu des journalistes, des écrivains, des philosophes qui se sont situés et qui n'ont pas voulu choisir en fait entre ces soi-disant deux Espagnes qui s'affrontaient. Effectivement, dans la guerre civile, il y a eu deux camps quand même très, très bien délimités. Mais il y a eu quand même une partie, surtout des intellectuels, des écrivains qui auraient aimé ne pas avoir à choisir. Donc,
Sophie Babi.
Oui, et c'est en fait une vision que l'Espagne a d'elle-même et qui a été dont la transition représente en fait la transcendance, c'est-à-dire que la transition est perçue et vécue comme la réconciliation des deux Espagnes et comme la fin en fait de ce conflit des deux Espagnes dans une Espagne unie dorénavant dans la construction de la prospérité démocratique et libérale. Et c'est aussi un thème qui est ensuite instrumentalisé politiquement pour faire peur et pour précisément réduire à néant ces politiques de mémoire sous le prétexte que ça réactive les blessures du passé, faisant planer en fait le risque de guerre civile et d'une réactivation des deux Espagnes.
Sophie Babi, vous semblez dire à la fin de votre livre quelque chose que beaucoup ressentent. Est-ce que le sommet de la justice pénale internationale, de cet universalisme des droits de l'homme, de cette solidarité victimaire, est-ce qu'elle n'est pas un peu passée ou est-ce qu'elle n'est pas en train de passer?
Oui, c'est effectivement un peu le... le doute que j'émets à la fin, à savoir est-ce que l'Espagne n'est pas un peu à contre-temps, c'est-à-dire est-ce que toutes ces lois et ces dispositifs n'arrivent pas trop tard en fait, à la fois dans le contexte national espagnol et puis dans un contexte international où on se méfie considérablement de la justice internationale, qu'on accuse d'être une justice
qui n'a pas fait complètement ses preuves quand on pense à la Cour pénale internationale non plus.
Exactement. Et où le risque d'une réactivation de l'extrême droite et des populismes est très très présent et où ce thème en fait, comme on le disait juste avant, attise la colère en fait et ou l'incompréhension, mais qui sont fondées sur une ignorance en fait et une méconnaissance de la réalité du passé. Donc je pense que là, l'histoire, l'éducation, l'enseignement, la pédagogie est absolument centrale pour lutter contre ce type de
Mercedes. Justa, est-ce qu'on va en arriver au bout de... Maintenant, ça fait presque un demi-siècle, hein, depuis la fin du franquisme, c'est un demi-siècle dans une histoire. Est-ce que vous pensez que l'Espagne est en bonne voie? Est-ce qu'elle arrivera à dépasser définitivement, par des nouvelles générations peut-être, cette mémoire douloureuse?
En ce moment, c'est compliqué à dire parce que on a l'impression, au contraire, d'une réactivation du passé. Et des fois, quand on entend les discours politiques en Espagne, on a l'impression d'être dans les années 30. C'est vraiment des discours qui reviennent, des problématiques qui reviennent. Et je pense que c'est un mouvement européen, c'est pas que l'Espagne en fait, et où on parle à nouveau de la peur de l'étranger, de l'immigration, la crise économique. Il y a un repli nationaliste. Et tout ça, on le retrouve en Espagne et on rejoue en fait les problématiques de la guerre civile et du franquisme, mais à l'aune de ce qui se passe dans le reste de l'Europe. Donc je pense qu'en ce moment on n'est pas prêt en fait de dépasser le passé. Et comme disait Sophie, la seule solution qu'on a, c'est de continuer à en parler, de faire de la pédagogie, d'écrire des livres, d'essayer que les gens les lisent.
C'est ça ce que vous avez fait.
Je ne vois pas d'autres.
Sophie, vous êtes optimiste sur l'avenir de cette mémoire de la guerre d'Espagne en Espagne? Parce que les historiens
ont
énormément travaillé.
Oui, quand même. Je suis quand même optimiste, oui, parce qu'il y a eu un tournant vraiment phénoménal qui a été pris par le dernier gouvernement. C'est là. C'est posé. Donc ça suscite des réactions, des oppositions, mais qui ne sont pas des oppositions, on va dire, populaires. C'est-à-dire que c'est très instrumentalisé politiquement. Après, il y a un électorat derrière Vox, certes. Par exemple, quand on a exhumé le corps de Franco, on a crié au loup, on s'attendait au pire, et puis finalement, il s'est rien passé. Voilà, donc ça me donne beaucoup d'espoir.
La société espagnole, Mercedes Yusta, la société espagnole, qu'est-ce qu'on dit dans les familles? Est-ce que ça a libéré la parole toutes ces années? Est-ce que les choses se disent? Est-ce que les rancœurs persistent? Est-ce que ce voisin qui passe tous les jours l'assassin de son père, est-ce qu'il va se passer? Est-ce qu'on va le dépasser un jour?
Bon, là, je crois qu'effectivement, on a beaucoup avancé depuis la fin des années 90, où je faisais des enquêtes justement sur l'après-guerre, etc. Et la parole s'est énormément libérée. Et surtout, cette parole, elle a trouvé une légitimité dans l'espace public qu'elle n'avait pas auparavant. Et rien que ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. On en parle, on discute beaucoup encore dans les familles. Il y a toujours des différences idéologiques importantes qui sont réalimentées en plus par l'actualité politique espagnole d'aujourd'hui qui continue à être passablement mouvementée, mais au moins en fait il y a la possibilité d'exprimer cette parole et une parole qui est légitime.
Eh bien merci beaucoup et j'espère qu'en France, grâce à votre livre Sophie Babi, Juge et Franco, c'est la seule chose dont on n'a pas parlé ce soir, Jugement de Franco, il faut acheter le livre. Il faut acheter le livre pour avoir la réponse. Esprit de justice est terminé. À la technique, il y avait Noé Chabanne, à la réalisation, Lise Combe, à la préparation, Sandrine Chaperon, une émission d'Antoine Garapon.